Podcast Unige.
Bienvenue sur Lifelong Learning at Unige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Je suis Raphaël Zafran, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir tous et toutes pour cette deuxième saison de Lifelong Learning à Tunige, un espace de discussion où des experts et experts de la communauté formation continue viennent nous parler de leurs programmes et des domaines de pointe auxquels ils touchent. Dans ce podcast, nous abordons les liens entre formation continue et marché du travail, les grands enjeux sociétaux tels que la transformation numérique et l'impact de l'intelligence artificielle, les défis liés au changement climatique et aux objectifs de développement durable, ainsi que ce que pourront être les compétences et les jobs du futur. Notre capacité à apprendre et à nous adapter est centrale à la notion de lifelong learning. Elle nous permet de prendre notre destin professionnel et personnel en main. La Suisse est reconnue dans le monde entier comme une plaque tournante du secteur de la santé et comme un centre mondial pour l'industrie pharmaceutique, celle-ci étant par conséquent un moteur essentiel de l'économie et de l'innovation en Suisse. L'industrie pharmaceutique est soumise à un nombre important de réglementations et de contraintes nationales mais également internationales. Complètement globalisée, elle se repose sur un certain nombre de sous-traitants qui interviennent tout au long du cycle de vie d'un médicament ou de dispositifs médicaux. La gestion de la qualité est donc un enjeu majeur pour cette industrie qui doit garantir que les produits fabriqués sont sûrs et répondent aux normes de qualité requises pour les différents marchés approvisionnés. Au cœur de cet enjeu réside un réel défi de formation et d'adéquation avec les besoins de l'industrie en termes de compétences. Nous abordons ce sujet fascinant avec Eric Alemann, professeur ordinaire de technologie pharmaceutique à l'Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale. Après un doctorat à l'Université de Genève et un passage par l'Université de Sherbrooke au Québec pour son post-doctorat, il rejoint le centre de recherche genevois de la société pharmaceutique Bracco Research, où il dirigera le département de recherche sur les nouveaux agents à partir de 2004. Il est co-inventeur de 15 brevets internationaux et est auteur de plus de 150 articles de recherche et de synthèse. En plus de ses fonctions académiques, le professeur Alemann est également cofondateur de Kilis, une start-up développant des biopolymères à usage médical. Professeur Eric Alemann, bienvenue sur Lifelong Learning à Tunige.
Bonjour Raphaël, merci de me recevoir.
Alors, peut-être pourrions-nous commencer par établir le périmètre de la discussion, car lorsque l'on évoque l'industrie pharmaceutique, on a l'impression que c'est un domaine que l'on connaît bien. Mais c'est en effet un secteur extrêmement complexe qui comprend un nombre important d'acteurs. Comment définir ce secteur tellement clé qu'est l'industrie pharmaceutique et ce qu'il couvre ?
Eh bien, l'industrie pharmaceutique peut se définir comme un instrument permettant de délivrer en permanence des médicaments de qualité dans les temps et à une multitude de patients au travers du monde. Il s'agit donc d'un système global démarrant par la recherche de nouvelles molécules thérapeutiques innovantes, ayant une activité biologique avérée et se terminant à l'autre bout par l'administration du médicament au patient, et ceci avec l'effet désiré et sans nuire au patient. Il y a donc tout un développement qui démarre par la recherche de ces nouvelles molécules. Ensuite, si l'activité est avérée, une formulation d'un médicament, la mise en forme d'un médicament. Et ensuite, le développement peut conduire à l'industrialisation, la mise en place d'un procédé de fabrication, le conditionnement du médicament. Et puis, les médicaments doivent évidemment suivre une recherche qu'on appelle préclinique, puis ensuite clinique, pour démontrer l'efficacité, mais avant tout la non-toxicité de ces molécules. Ces études cliniques permettent aussi de définir les posologies en fonction des indications prévues. Pendant toutes ces phases-là, les données techniques doivent être collectées, aussi bien sur les matières premières, les procédés, les contrôles, et ceci est fait au sein des affaires réglementaires. Les équipes de production ont donc la charge de fabriquer, de conditionner les médicaments et tout au long de ces procédés, des prélèvements sont faits, des analyses sont faites afin de vérifier, de contrôler la qualité des médicaments. Ceci se fait donc dans le cadre de ce qu'on appelle l'assurance de qualité. Il y a vers la fin aussi tout ce qui concerne le stockage, la distribution, l'envoi des médicaments dans les divers pays, et ceci nécessite aussi des contrôles dans toutes les étapes. On comprend donc que cette immense chaîne doit subir ou fait l'objet d'un très grand nombre de contrôles, et ces contrôles font l'objet eux-mêmes d'une réglementation par pays ou d'une réglementation internationale. Nous pourrons peut-être revenir sur ce point-là.
Je le mentionnais dans mon introduction, vous êtes donc professeur, ce qui vous amène à partager votre temps principalement entre activités de recherche et d'enseignement. Mais vous avez également été actif sur le terrain, dans l'industrie pharmaceutique, entre autres en tant que responsable du département de recherche pour la société pharmaceutique Bracco Research. Et je le mentionnais, vous avez cofondé la start-up Kilis. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce domaine à titre personnel et comment faites-vous le lien entre vos différentes activités professionnelles ?
Oui, effectivement, écoutez, en faisant le bilan de mes années de carrière professionnelle, je me rends compte que j'ai eu la chance de, d'une part, travailler en officine, en pharmacie d'officine comme pharmacien, comme employé d'une société pharmaceutique, comme professeur à l'Université de Genève et puis, comme vous l'avez dit, comme fondateur d'une start-up. Et je pense que le dénominateur commun de toutes ces années, c'est la curiosité de découvrir, de développer, d'apporter quelque chose de meilleur à la fin pour le patient. Et c'est, je pense, ce qui m'a toujours motivé. Un des moteurs aussi qui est important dans ce domaine, c'est finalement que l'inventivité, la créativité naît de la contrainte de qualité justement. C'est dans ce réseau, dans ce système qui doit être contrôlé que l'inventivité et la création arrivent, en tout cas pour moi.
Alors entrons à présent dans le vif du sujet, à savoir la dimension gestion de la qualité ou contrôle qualité au sein de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi est-ce un enjeu particulièrement important et actuel dans notre monde globalisé ?
Oui, alors effectivement, la plupart des médicaments sont produits puis distribués dans de nombreux pays du monde. Ces pays ont chacun une réglementation, des institutions. Et donc, les médicaments doivent pouvoir correspondre et respecter les normes des différents pays. Heureusement, il y a un organisme international qui d'ailleurs est situé à Genève, l'International Council for Harmonization, typiquement pour les produits thérapeutiques à usage humain. Et heureusement, cet organe international édite des normes qui vont être réutilisés dans les différents pays. Donc effectivement, le monde, l'industrie pharmaceutique doit respecter ces normes internationales et souvent en plus des normes locales.
Alors afin de rendre les choses très concrètes pour nos auditeurs et auditrices, pourriez-vous nous donner une idée du parcours d'un médicament ou d'un dispositif médical via ce processus, ce standard de contrôle qualité ?
Oui, alors si on exclut, disons, si on considère que la recherche a été effectuée et que l'on pense maintenant à produire un médicament, alors première chose, gardez en tête qu'un médicament, c'est une substance ou plusieurs substances actives et un nombre important d'excipients. Les excipients sont des molécules qui n'ont pas d'activité thérapeutique, mais qui sont nécessaires à la forme finale du médicament. On parle de sucre, on parle de polymères, on parle de substances qui permettent ensuite aux médicaments de se désagréger dans l'estomac. Ceci, c'est donc les excipients. Ensuite, au-delà de ces excipients, vous aurez la forme pharmaceutique, par exemple un comprimé. Ce comprimé va être ensuite conditionné dans un blister, c'est ces petites feuilles plastiques qui sont thermoformées, et les blisters sont encore insérés dans des boîtes en carton. Vous comprenez donc qu'il y a une multitude de composants. Ces composants ne sont pas tous fabriqués par l'entreprise pharmaceutique elle-même. Donc l'entreprise doit s'assurer que chacune de ces substances a les qualités requises. Et ensuite, elles sont mises en forme, certainement, dans une entreprise pharmaceutique, parfois sur plusieurs sites ou plusieurs chaînes de fabrication. Les matières premières elles-mêmes peuvent être délivrées par des fournisseurs qui sont dans divers pays. Et là, c'est aussi évidemment important de s'assurer de ces chaînes et de la disponibilité de ces molécules. Maintenant, pour ce qui est de la qualité, eh bien, le personnel qui travaille dans les entreprises pharmaceutiques doit être formé et ce qu'on appelle également qualifié, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que chacune de ces personnes, jour après jour, respecte les règles de fabrication, respecte aussi les normes d'hygiène, respecte potentiellement la façon de s'habiller dans un site de production pour maintenir l'hygiène, l'asepsie et avoir finalement un produit final qui a toutes les qualités. De la même façon, les équipements, les machines qui permettent la fabrication doivent être qualifiés avec des résultats de production qui ne varient pas au cours du temps, qui varient extrêmement peu pour s'assurer que, par exemple, un comprimé, jour après jour, a toujours le même poids, évidemment le même dosage de substances actives. On comprend donc qu'au travers de cette fabrication, étape après étape, on doit faire des prélèvements des substances, prélèvements du médicament après sa fabrication, contrôle de l'emballage final, et ceci est fait par des services de contrôle de qualité avec des analyses qui peuvent être des analyses chimiques, des analyses physico-chimiques, des analyses physiques du matériel, de l'emballage. Et puis tout à la fin, il y a une personne qu'on appelle qualified person dans l'entreprise qui a la responsabilité de libérer un lot, c'est-à-dire après avoir analysé les résultats du contrôle de qualité, peut attester que le médicament respecte toutes les contraintes et donc libère le lot pour sa distribution et la mise en vente dans les divers pays. Mais une fois ce lot libéré, eh bien, il faut encore considérer la distribution, le transport et, point très important, la traçabilité. Traçabilité parce que dans ce monde globalisé, eh bien, il y a non seulement des médicaments qui sont ceux que l'on souhaite délivrer et administrer aux patients, mais il y a tout le réseau des contrefaçons. Et là, il y a évidemment un travail immense aussi de qualité pour pouvoir suivre les médicaments avec que ce soit des numéros de lot, des QR codes, et ceci est aussi fait partie intégrante de la qualité.
Alors, l'industrie pharmaceutique a été très visible pendant la pandémie de Covid-19 pour des raisons évidentes, mais comme beaucoup d'autres secteurs, la pandémie a mis en exergue certaines failles de l'industrie pharmaceutique et a accéléré certaines tendances. Entre autres, vous indiquiez récemment dans un court article que la pandémie a mis en évidence la faiblesse de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mise en place à la fin du XXe siècle et que l'on a sous-estimé les problèmes de surveillance par des tiers pouvant survenir lorsque les déplacements ne sont plus possibles. Pourriez-vous nous en dire davantage? Quels sont les moyens mis en œuvre pour pallier à ces problèmes?
Oui, alors effectivement, on peut se souvenir du tout début de la crise Covid et dans la presse, on a vite vu par exemple qu'en Suisse, on manquait de masques chirurgicaux et qu'il était impossible de fabriquer des masques chirurgicaux en Suisse, quand bien même on a une tradition en Suisse avec des entreprises fameuses qui ont produit pendant des siècles quasiment des pansements et des sparadraps, mais on est incapable de produire des masques. Quelques semaines après le début de la crise, j'avais un collègue pharmacien qui m'indiquait clairement qu'on allait manquer d'anesthésiques, de propofol pour les soins intensifs. Et puis maintenant, les mois ont passé et la réalité du terrain, c'est qu'il y a des ruptures de stock sur des médicaments extrêmement importants. Moi-même, j'étais cette semaine dans une pharmacie pour demander un médicament qui me paraissait vraiment de base et il y a des ruptures de stock. Alors, je crois que les gouvernements se doivent maintenant de revoir un peu la chaîne de production des médicaments, puisque dans ce monde globalisé, on a, je dirais, pour des questions économiques, modifié notre façon de penser les médicaments et leur fabrication. Donc, beaucoup de synthèses de molécules sont délocalisées ou, disons, localisées dans des pays lointains, en particulier des pays asiatiques. Et aujourd'hui, les entreprises pharmaceutiques, en accord avec les gouvernements, doivent repenser et il doit y avoir une incitation à synthétiser et produire des médicaments, en particulier ce qu'on appelle les médicaments essentiels, de façon beaucoup plus locale ou au niveau peut-être européen, de s'assurer d'approvisionnement sécurisé d'un certain nombre de molécules. Et il faut noter évidemment des gros efforts qui sont fournis, entre autres en Suisse romande. On peut penser par exemple à Viège, au site pharmaceutique de Lonza, qui a investi des centaines de millions de francs pour avoir des chaînes de développement et de production des produits biotechnologiques, donc ce qu'on appelle les protéines, les ARN aussi maintenant, puisqu'on a vu que ce site de Viège peut produire des quantités immenses de vaccins. Et cela a été évidemment extrêmement utile tous ces derniers mois.
Parlons à présent de formation. Oui. Nous avons donc un secteur dynamique, central pour l'économie suisse, on le disait, passablement concurrentiel également, qui est donc amené, je l'imagine, à recruter régulièrement et parfois massivement. Quels sont les retours que vous avez, tant de la part de vos étudiants et étudiantes et de la part des acteurs de l'industrie? Y a-t-il aujourd'hui un alignement des attentes des deux côtés?
Alors écoutez, c'est justement pour cela que nous proposons cette nouvelle formation de ce CAS, Industrial Pharmacy Quality Management. C'est parce qu'il y a un manque. D'une part, l'industrie a besoin de professionnels extrêmement bien formés pour relever les défis de la recherche, de la production et évidemment de l'assurance de qualité. L'industrie en Suisse et ailleurs a besoin de ces personnes-là. Du côté de l'université, nous formons alors, pour ma part en particulier, des étudiants en sciences pharmaceutiques, donc de futures pharmaciennes et pharmaciens, mais si l'on pense aussi à d'autres formations de la faculté des sciences, la chimie, la biologie, ces jeunes sont formés en 5 ans, peuvent rejoindre l'industrie pharmaceutique en Suisse ou ailleurs, mais il leur manque en général quelques atouts supplémentaires pour vraiment être en adéquation avec les besoins de l'industrie. Et un des pans de cette formation, c'est justement la connaissance dans le domaine de la qualité. La création donc de ce CAS à la demande de l'industrie, ou disons dans le cadre de discussions qu'on a pu avoir ces dernières années, nous a permis donc ces discussions nous a permis dans un premier temps de réunir le monde universitaire et industriel autour d'un projet commun qu'est cette formation de la nouvelle génération qui permettra de relever les défis d'approvisionnement de demain.
Donc exactement, vous êtes donc le directeur du nouveau CAS Industrial Pharmacy Quality Management, vous le disiez. Ce CAS a été élaboré spécifiquement pour remédier à ce problème d'alignement que nous venons d'évoquer. Et ce qui serait intéressant ici, c'est d'expliquer à nos auditeurs et auditrices quels sont les objectifs pédagogiques de ce CAS, de cette formation continue, et peut-être d'une part les objectifs au sens large et les compétences visées spécifiquement par le certificat, puisque ce qu'on comprend, c'est qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas acquises ou traitées dans la formation de base.
Oui, effectivement, je voudrais juste revenir sur, en fait, la genèse de cette formation, c'est, je dirais, pour ma part, puisque jusqu'en 2009, j'étais en industrie, dans un centre de recherche, et je côtoyais évidemment les personnes des ressources humaines, les personnes justement du domaine de la qualité, on se rendait compte à quel point ces sites industriels avaient besoin de gens bien formés. Puis quand j'ai fait ma transition vers l'université, eh bien, j'ai eu de nombreuses discussions, entre autres avec les personnes de la Société suisse des pharmaciens d'industrie et d'autres, et on a fait aussi le constat que non seulement il fallait une formation, mais que ce domaine de l'assurance de qualité est en mouvement perpétuel. Les réglementations évoluent d'année en année. Donc, à proposer une formation, il faut que cette formation soit en lien très étroit avec les industriels, les experts qui sont sur le terrain et qui, évidemment, maîtrisent et utilisent toutes ces réglementations.
Donc, c'était plutôt l'industrie qui vous avait fait ce retour en termes du manque de compétences, ou est-ce que vous aviez aussi reçu des retours de la part des étudiants et étudiantes qui allaient ou qui postulaient à des postes dans l'industrie qui peut-être n'arrivaient pas à trouver leur place?
Oui, parce que, alors moi je suis effectivement toujours en lien avec nos étudiants et nos ex-étudiants des fois, puisqu'ils viennent frapper à ma porte, peut-être aussi parce que moi-même j'ai travaillé dans l'industrie, et c'est vrai qu'on entend et on sourit quand on entend cela, mais l'industrie cherche des personnes très jeunes mais très bien formées. Mmh. Alors oui, ces jeunes ont besoin de quelque chose de supplémentaire, pas tous, il y a certains postes que l'on peut obtenir dès la fin de nos études, et j'ai de nombreux cas d'étudiants qui d'ailleurs font leur travail de master en industrie, qui peuvent enchaîner avec un emploi. Mmh. Mais certains ont besoin d'un supplément, et donc nous allons proposer dans le cadre de cette formation un certain nombre d'objectifs de formation, en particulier donc acquérir une connaissance détaillée, approfondie de la gestion de la qualité tout au long du cycle de vie d'un médicament. Un autre objectif est de comprendre les contextes réglementaires et normatifs de l'industrie de la santé dans lesquels l'assurance de qualité est utilisée. Apprendre à utiliser les outils aussi de l'assurance de qualité. Il y a toute une notion aussi de, maintenant par la digitalisation, d'outils informatiques évidemment. Et puis, ces personnes vont aussi au cours de la formation acquérir une méthode d'analyse, une capacité de résoudre des problèmes, évidemment en tenant compte de ces contraintes, comme j'ai déjà parlé, les contraintes de l'industrie pharmaceutique. Et on va donc avoir cette population de personnes qui suivront cette formation, qui vraiment arriveront à penser qualité et donc pouvoir résoudre des problèmes.
Donc la première édition du CAS sera lancée dans les prochains mois.
Oui.
Et quels seront les profils de vos futurs participants et participantes et quelles sont a priori leurs attentes? On l'a un petit peu évoqué, mais peut-être que, je ne sais pas si vous avez fini le recrutement, mais qu'est-ce que vous voyez pour l'instant en termes de profil de participants?
Alors écoutez, on a déjà un certain nombre d'inscrits, donc j'ai pu voir que je pense que la majorité sont des personnes qui sont déjà insérées dans le milieu industriel pharmaceutique, qui ont déjà un emploi qui touche à la qualité, d'autres pas encore, mais qui ont envie d'aller dans ce grand domaine de la qualité, et donc qui veulent compléter une formation universitaire de niveau bachelor ou master par un CAS. Ensuite, on a un certain nombre d'inscrits qui sont des jeunes pharmaciennes et pharmaciens qui ont fini leur formation il y a quelques mois et qui veulent se profiler, on va dire, du côté industrie et donc compléter leur formation de master ou de diplôme fédéral avec cette formation supplémentaire. Puis finalement, on a vu aussi une ou deux personnes inscrites qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi, qui ont déjà travaillé soit dans le domaine de la biotechnologie, du pharma ou peut-être de l'industrie alimentaire ou chimique, et qui ont envie de donner une vraie couleur pharmaceutique à leur profil. Et je crois que c'est finalement l'ensemble de ces petites personnes qui viennent de divers horizons qui va faire une première volée qui va pouvoir interagir de façon extrêmement intéressante.
Alors on le disait, il s'agit d'un secteur très innovant, très dynamique. Qu'avez-vous mis en place pour vous assurer que le contenu du programme de la formation soit en phase et continue d'être en phase avec la réalité du marché du travail ?
Oui, alors ça c'était évidemment un point très important. Je dirais que ce CAS est évidemment sous l'égide de l'Université de Genève, mais nous sommes en proche collaboration avec d'une part la Société suisse des pharmaciens d'industrie et d'autre part le groupement roman de l'industrie pharmaceutique. Et j'aimerais citer à ce titre plusieurs personnes qui contribuent effectivement de très près à cette formation, entre autres Frédéric Sfalen, Philippe Butier, Nathalie Wardet, David Limal, qui sont des personnes avec qui nous avons parlé dès le début pour cette formation. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, ce sont des experts. Et notre formation va reposer sur, j'ai envie de dire, un certain nombre d'enseignants et de professeurs de l'université, mais sur un grand nombre de personnes qui sont sur le terrain, qui pratiquent l'assurance de qualité au quotidien et qui pourront délivrer, échanger cette information avec nos étudiants.
Alors si on rentre un petit peu plus dans le cœur de la formation et de ce qui est prévu, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du scénario pédagogique du CAS et des activités d'apprentissage qui seront proposées aux participants et participantes ?
Oui, alors d'abord dire que nous tenons à ce que cette formation soit faite en partie ou en grande partie en présentiel. Après ces dernières années passées beaucoup à travers des caméras et des écrans, donc plus de la moitié de la formation sera faite en présentiel dans les locaux de l'Université de Genève. Une autre partie sera faite à distance. Une petite partie sera faite sur un enseignement de type, on va dire, traditionnel ou anciennement frontal, mais la grande partie sera faite de façon très interactive avec des résolutions de problèmes, avec des cas concrets rencontrés dans l'industrie pharmaceutique, avec ce qu'on appelle le « problem solving ». Et puis, cette première volée d'étudiants sera en interaction permanente avec les intervenants. Ça sera donc aussi l'occasion de créer un réseau de futurs experts qui pourront continuer à interagir au-delà de cette formation. Et puis, j'aimerais aussi souligner qu'une partie de la formation, en tout cas, sera aussi sous la forme de visites dans des sites ou un site pharmaceutique qu'on appelle GMP, donc ces sites qui sont justement sous l'effet des réglementations et de l'assurance de qualité.
Et maintenant, si on se projette un petit peu, quels sont les nouveaux métiers qui sont apparus dans l'industrie pharmaceutique ces dernières années et auxquels vos participants et participantes pourraient prétendre au terme de cette formation ?
Alors, je dirais d'abord, notre mission, c'est de remplir les métiers existants, que ce soit au niveau contrôle de qualité et assurance de qualité. Mais comme je l'ai dit, ces normes sont en évolution permanente. Et puis, on peut répéter des mots que l'on retrouve partout. C'est évidemment digitalisation, intelligence artificielle, data management. Donc, on est dans un monde où les données seront multiples. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on va contrôler la fabrication du médicament à toutes les étapes. Donc, il y a une immense quantité de données à traiter à la fin pour qu'une personne, ce que j'ai appelé la qualified person, puisse libérer les lots pour leur mise à disposition. Et donc, on voit là qu'il y a des métiers qui sont vraiment au laboratoire avec de l'analytique pharmaceutique, mais il y a aussi toute cette notion de données et de traitement des données et d'utilisation intelligente de ces données.
Voilà, alors nous arrivons doucement à la conclusion de notre entretien et c'est le moment pour moi de vous poser nos deux dernières questions habituelles. Tout d'abord, quelle serait votre recommandation principale aux personnes qui nous écoutent, qui s'intéressent à la pharmacie industrielle et qui envisagent les carrières possibles dans ce secteur ?
Ben écoutez, j'aimerais bien que ces personnes qui s'intéressent soit s'inscrivent directement pour ce CAS pharmacie industrielle, soit prennent contact avec nous en consultant le site internet. Nos données sont accessibles. On peut échanger, passer en revue un peu le parcours professionnel et de formation de ces personnes et réaliser si une formation supplémentaire serait utile.
J'aurais dû ajouter, outre le fait de s'inscrire au CAS.
Mais oui, je crois que c'est ça. Donc, si les personnes sont déjà dans le monde du travail et souhaitent peut-être rediriger un peu leur formation pour accéder à des nouveaux postes, peut-être aussi accéder à plus de responsabilités, à des postes hiérarchiques plus élevés, eh bien, je pense que cette formation sera vraiment utile.
Et juste peut-être au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut pour, disons, approcher ce secteur pour des personnes qui peut-être ne seraient pas passées par la case formation de base en pharmacie, en sciences pharmaceutiques? Est-ce que c'est possible?
Oui, justement, notre cursus, en particulier dans le module 1 de ce cursus, nous allons revoir, on va dire, ou voir pour les personnes qui ont un autre cursus, la fabrication des formes pharmaceutiques, en particulier des formes pharmaceutiques solides, les comprimés, les gélules, et les formes liquides. Et ces deux formes pharmaceutiques représentent à peu près 80% des médicaments vendus dans le monde. Donc, on va proposer aux participants qui ont peut-être un cursus en chimie, en biologie, qui n'auraient jamais passé en revue ou appris comment fabriquer un médicament, on aura ce premier module qui va faire un peu le catch-up, donc qui va permettre de rattraper le train, si on veut bien, et ensuite tout le monde pourra suivre cette formation.
Et enfin, notre dernière question que nos auditeurs et auditrices apprécient particulièrement, quels seraient deux livres, articles ou films qui vous ont influencé et que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent?
Bon, alors si on parle purement de ce cas, évidemment que je devrais conseiller des ouvrages qui sont techniques, qui sont assez difficiles à aborder de prime abord. C'est les lois sur les produits thérapeutiques, c'est les guides de bonnes pratiques de fabrication, c'est les normes ICH, mais ces textes sont difficilement lisibles quand on est à la maison. Donc nous allons proposer évidemment d'aborder ces textes dans le cadre du CAS avec les experts qui pourront nous guider dans ces textes. Moi j'aimerais, je dirais, pour alléger un peu cette discussion, penser à deux livres. Je suis aussi amateur de romans et ces dernières années j'ai lu en tout cas un roman qui est extrêmement intéressant, passionnant, de Javier Moreau. Le nom, c'est L'expédition de l'espoir. Et ce roman retrace une épopée incroyable, c'est la vaccination contre la variole en Amérique latine, avec ces gens qui étaient partis d'Espagne en particulier. Ce roman met en avant une femme exceptionnelle qui emmène des orphelins qui portent la maladie atténuée de la variole, donc qui ont des pustules. Et de ces pustules, on va retirer un fluide qui permettra la scarification de milliers de personnes en Amérique latine. Et je pense qu'il y a vraiment un lien avec la qualité et avec le sujet de ce jour, parce que oui, c'est il y a 200 ans, mais à ce moment-là, on avait trouvé quelque chose d'assez bien, évidemment, pour traiter et faire de la vaccination d'une maladie qui était extrêmement grave. On peut maintenant, évidemment, voir la situation d'aujourd'hui, par exemple avec le Covid et des vaccins qui ont été mis sur le marché extrêmement rapidement avec toute la qualité requise. Donc je pense que ce roman mérite vraiment d'être lu et nous permet de faire un saut de deux siècles sur le médicament quand même. Et puis l'autre roman, je dirais, qui permet ou qui m'a permis, j'ai envie de dire, qui est fondateur pour moi, c'est un roman de Boris Vian, L'écume des jours. Pour moi, c'est un roman, je dirais, de jeunesse, puisque je l'ai lu pour la première fois quand j'avais 13 ans. Y a-t-il un lien avec la formation de ce jour? Bien, peut-être se rappeler quand même que Boris Vian était un écrivain, un musicien, mais était aussi de formation un ingénieur qui a travaillé à l'AFNOR, à l'Agence française de normalisation. L'Agence de normalisation française est en lien avec l'organisation ISO. Donc, je trouve que c'est ainsi intéressant d'avoir là un roman d'un ingénieur qui, finalement, toute sa vie a été très inventif, très créatif, farfelu aussi. Donc, je trouve que ça vaut la peine d'être lu.
Professeur, merci infiniment pour ces références que nous mettrons dans les notes de l'épisode. Et également, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette passionnante discussion autour des enjeux de qualité au sein de l'industrie pharmaceutique.
Merci à vous.
Un grand merci également à Michel Raymond pour la technique, ainsi qu'à nos collègues Tobias Verli, Loris German et Gabriel Real de Azoua pour le travail de diffusion autour des épisodes. Et à très bientôt sur Lifelong Learning à Tunige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève.
Podcast Unige.